France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec le docteur Nasio.
Chère auditrice, cher auditeur, je suis vraiment très content de vous retrouver. Pour commencer, je vous pose une question. Êtes-vous allé récemment visiter une exposition des peintures? Je suis sûr que oui, et que, tout comme moi, vous aimez admirer les tableaux d'un grand maître. Justement, j'ai rêvé cette nuit que nous allions visiter ensemble une exposition imaginaire des deux grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture. Notre exposition s'intitule « Francis Bacon et sa folle passion » pour un tableau de Velázquez. Je vous propose de jouer avec moi. Vous allez jouer le rôle du visiteur et moi, celui du guide psychanalyste qui vous raconte l'histoire de ces deux tableaux et de leur peintre. Après avoir traversé le jardin qui mène à notre musée éphémère, nous entrons dans une salle vide et nous y découvrons deux tableaux accrochés au mur, l'un à côté de l'autre. À gauche, nous avons le portrait du pape Innocent X, peint par un grand maître du XVIIe siècle, Diego Velázquez. À droite, nous avons un autre portrait, intitulé « Tête 6 », peint par un grand maître du XXe siècle, Francis Bacon. S'il vous plaît, prenez maintenant votre portable et regardez ces deux œuvres magnifiques. Cherchez d'abord Velázquez, puis le pape Innocent X. Ensuite, cherchez Francis Bacon, puis Tête 6. Je vous raconterai dans un instant l'histoire de ces deux œuvres et de la passion qui les relie. Mais avant tout, observez ces deux tableaux comme si vous les voyez pour la première fois. Prenez votre temps, concentrez-vous sur chaque image et imprégnez-vous de leur beauté. Je profite de ce moment de pause pour vous rappeler que, comme d'habitude, nous conclurons notre épisode en répondant aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce récit en podcast. N'oubliez pas que les prochains épisodes de l'Inconscient sont déjà accessibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous adresser vos questions par note vocale sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04.
L'Inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Mais revenons à notre exposition imaginaire. Toujours en jouant mon rôle de guide, je vous demande, chers visiteurs, de vous approcher des deux toiles. À gauche, nous avons l'œuvre la plus ancienne, qui nous a été prêtée par la Galleria Pamphili de Rome. Le tableau s'appelle « Portrait du pape Innocent X ». Il a été peint par Velázquez au Vatican en 1650. Devant son modèle, le Saint-Père assis sur le trône pontifical. À droite, nous avons l'œuvre la plus récente qui nous a été prêtée par la Hayward Gallery de Londres. Il s'agit d'un portrait intitulé « Tête 6 », peint trois siècles plus tard, en 1949, par Francis Bacon lorsque, en feuilletant une revue d'art, il y découvre, émerveillé, la reproduction du portrait du pape de Velázquez. Le portrait de gauche, le plus ancien, est donc un tableau figuratif, peint d'après le modèle, tandis que celui de droite, le plus moderne, est un tableau fantasque, peint à partir d'une reproduction en couleur de la toile de Velázquez. Je me tourne maintenant vers vous, chers visiteurs, et vous dis, venez, asseyons-nous un instant sur la banquette. Avant de vous commenter ces chefs-d'œuvre qui sont devant nous et vous raconter la vie des génies qui les ont peints, je vous pose et me pose une question. Regardez ces tableaux. Comment ces peintres ont-ils fait pour obtenir une telle perfection? Quel travail, quel effort! Où ont-ils puisé leur énergie pour créer des œuvres aussi magistrales? D'où vient cette force souterraine qui allume l'œil, la tête, le cœur et la main d'un artiste pour réussir à peindre sur la toile une image aussi puissante? Freud, le père de la psychanalyse, a répondu à cette question en disant que la force qui pousse un artiste à créer naît dans son corps. Oui, dans toutes les parties excitables du corps qui interviennent dans le comportement sexuel ou agressif. C'est ainsi que Freud a inventé le terme de sublimation, pour montrer que la force qui nous pousse à faire l'amour ou la guerre est utilisée maintenant pour créer une œuvre d'art. Tout est là. Pour la psychanalyse, la force des créations est un raffinement de la force sexuelle ou agressive. Mais attention, c'est seulement une partie de la sexualité et de l'agressivité qui est sublimée. Il y a toujours une part de sexualité et d'agressivité qui n'est pas sublimée et qui reste très active. Les artistes, tout créateur qu'ils sont, ont souvent un désir sexuel et agressif exacerbé. On le voit avec Bacon. Quand il peignait, il s'excitait sexuellement. Et le soir, il ne pouvait s'empêcher de s'alcooliser, de draguer des jeunes garçons dans la rue, de chercher la bagarre et souvent de se faire rouer de coups. Vous voyez qu'un artiste éminent peut avoir des comportements débridés et cependant garder intacte sa puissance de création. Voilà, chers visiteurs, ce qu'est la sublimation pour Freud. Maintenant, laissez-moi vous parler brièvement de ma propre idée de la sublimation. Je ne me demande plus d'où vient la force de la création, mais comment elle se transmet. Vous verrez que cette idée de transmission nous permettra de mieux comprendre la folle passion de Bacon pour Velázquez. Dans la sublimation telle que je l'entends, j'ai fait porter l'accent sur le spectateur plutôt que sur l'artiste. Quand nous sommes sous les charmes d'une œuvre d'art, que se passe-t-il? Nous sommes heureux. Oui, nous sommes heureux d'éprouver un plaisir unique, s'oublier soi-même. Ne serait-ce qu'un instant, l'instant de la beauté. À ce moment, nous sentons monter en nous l'envie d'agir et de créer, la même envie qui avait entraîné l'artiste à peindre, à sculpter ou à écrire. La sublimation, c'est justement cela, la transmission de l'envie de créer de l'artiste au spectateur. Si nous appliquons à Velázquez et Bacon notre idée de la transmission de l'envie de créer, nous dirons que Velázquez est le peintre qui, avec son portrait du pape, incite à créer, et Bacon est le spectateur subjugué qui crée un nouveau portrait. Chers visiteurs, concentrons-nous maintenant sur les portraits du pape Innocent X. Je vous raconte que son auteur, Diego Velázquez, est né à Séville en 1599 et qu'il est mort à Madrid en 1660, à l'âge de 61 ans. Il était le peintre attitré du roi d'Espagne, Felipe IV. Dans quelles circonstances Velázquez a-t-il réalisé ce portrait fascinant? En 1649, notre peintre est très heureux de se rendre en Italie à la demande du roi d'Espagne pour acquérir des toiles et des objets anciens destinés à décorer l'Alcazar de Madrid. Il voyage en compagnie de son esclave métis, très aimé, Juan de Pareja, et séjourne à Rome pendant 2 ans. C'est alors qu'il sera reçu au Vatican par le pape Innocent X, qui lui demandera de faire son portrait un peu plus tard, au début de l'année suivante. Ayant du temps devant lui, Velázquez en profite pour s'entraîner et améliorer sa technique du portrait en prenant son esclave pour modèle. Une fois achevé, le portrait de Juan de Pareja se révèle tellement parfait que le maître choisit de l'exposer officiellement à Rome. Après cette période de perfectionnement de sa technique, le maître est fin prêt pour réaliser la toile que le souverain pontife lui avait commandée. C'est ainsi qu'il produira l'un des plus prodigieux portraits de l'histoire de la peinture. Il s'agit d'une huile sur toile de style baroque, achevée en août 1650. Pour peindre ce chef-d'œuvre, Velázquez s'est inspiré de Titien, qui, 100 ans plus tôt, avait réalisé le portrait du pape Paul III. Titien lui-même s'était inspiré de Raphaël, qui, 30 ans avant lui, avait peint le portrait du pape Léon X. Voilà encore une illustration de l'idée qui anime mon récit d'aujourd'hui. L'histoire de l'art est un enchaînement ininterrompu d'inspiration. Raphaël inspire Titien, qui à son tour inspire Velázquez, lequel inspirera Bacon. Quand un artiste crée une œuvre, il recrée l'œuvre qui l'a inspirée. Créer, c'est toujours recréer. Créer, c'est faire naître quelque chose qui n'existait pas à partir de quelque chose qui existait déjà. En ces moments où je vous parle, chers auditeurs, nous créons, puisque nous faisons exister un dialogue qui n'existait pas auparavant. Mais retrouvons le tableau de Velázquez qui est exposé à Rome. Si vous visitez la ville éternelle, ne manquez pas d'aller à la Galleria Pamphili. Vous installez devant ce tableau superbe et vous laissez éblouir par sa lumière. On sait qu'en découvrant son portrait, le Saint-Père fut saisi devant une telle perfection qu'il s'exclama non sans gravité: Troppo vero! C'est trop vrai! Comme s'il reprochait au peintre: Vous m'avez démasqué! Vous avez dévoilé mes sentiments les plus intimes! Pourtant, Innocent X a dû être tellement impressionné par la splendeur de son portrait qu'il gratifia le peintre d'une chaîne d'or, relique que Velázquez conservera précieusement jusqu'à sa mort. Maintenant, détaillons les portraits. L'avez-vous sur votre écran? Observez le visage du souverain pontife au teint rougeâtre et moite de sueur. N'avez-vous pas l'impression que cet homme est tendu et irritable? Ses sourcils anguleux et ses lèvres dédaigneuses lui donnent un air sévère et intimidant. Son regard de biais nous fait sentir sa méfiance qui nous trouble et nous tient à distance. Mais la particularité la plus étonnante de ce portrait est la symphonie de rouge dominant la moitié supérieure de la toile, contrastant avec la symphonie des blancs dominant la moitié inférieure. Est-ce que vous voyez ce contraste? Maintenant, approchons-nous des rouges et remarquons d'abord l'arrière-plan de velours bordeaux. Vous avez ensuite le dossier du trône revêtu du même velours rouge. Et puis, nous apercevons la toque papale en soie rouge et surtout la courte cape d'un rouge luisant drapée sur les épaules du pape. Je vous demande de garder à l'esprit les plis brillants du drapé de la cape, puisque c'est à partir de ces ondulations à l'aspect lubrifié que je vais vous soumettre tout à l'heure mon hypothèse sur l'origine de la passion frénétique de Bacon pour ce portrait. Dans la moitié inférieure du tableau domine cette jupe gonflée couleur ivoire qui descend de la ceinture et confère au personnage une rondeur maternelle qui tranche avec la tension monacale du buste. Voilà notre regard sur ce portrait stupéfiant. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas mon regard, mais le regard de Bacon. La manière dont Bacon voyait ce pape de Velázquez avec l'œil de son inconscient.
Et tous les grands artistes, on est retourné à la vie avec une sensation plus profonde. Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'est tellement difficile de parler de ma peinture.
L'inconscient?
Parce que si je pouvais expliquer ma peinture, je pourrais expliquer ce qu'on appelle le subconscient. Et c'est une chose qu'on ne peut pas faire.
Avec le docteur Nasio, sur France Inter.
Assurément, Bacon a été, comme nous tous, fasciné par la splendeur de ses portraits incomparables. Cependant, il fut plus que fasciné. Il fut obsédé par ce tableau. Si obsédé que le sol de son atelier était jonché des photographies du portrait du pape dont la seule vue l'incitait à peindre. Oui, devant ces portraits envoûtants, Bacon ne peut pas se retenir de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire peindre. Il prend alors ses pinceaux, ses larges brosses, et tout en ayant son Velázquez dans la tête, il étale sur la toile les couleurs de sa palette. Mais entendons-nous, il ne cherche pas à copier le tableau de Velázquez, non. Ce qu'il veut, c'est se laisser aller, se soumettre au pouvoir hypnotisant de ses portraits, faire ce que les portraits lui dictent de faire. C'est ainsi que Bacon peint et repeint compulsivement d'innombrables papes, tous inspirés par le tableau fétiche de Velázquez. Il a peint 45 papes en 20 ans. Ici, je vous raconte un fait étonnant. Bacon n'a jamais voulu voir le tableau original. Même en étant à Rome, il a refusé de se rendre à la Galleria tant il craignait de souffrir de la confrontation, comme il le disait, entre ces tableaux parfaits et les choses stupides que j'ai peintes. En effet, tous les papes que Bacon a peints ont été considérés par lui comme des échecs. À propos des papes, je voudrais vous faire entendre la réponse d'un autre peintre à la question d'un critique d'art, Frank Maubert, qui lui demandait en 1982, 10 ans après la série des papes, pourquoi il s'était tant acharné sur les papes de Velázquez. Bacon, dépité, s'exclame « Ah, les papes, tous mes papes, je les trouve aujourd'hui ridicules. Voyez-vous, je regrette de les avoir peints. » Et il conclut « Ce pape de Velázquez m'a longtemps obsédé, mais je ne suis arrivé à rien, à rien. » Bacon a raison. Il n'est arrivé à rien si son but était d'égaler Velázquez. Mais il a atteint les sommets de l'art si l'on pense à l'accueil que les plus grands musées du monde ont réservé à la série des papes. Or, parmi ces nombreux papes, c'est la variante tête 6 que j'ai choisie comme étant l'œuvre la plus représentative de l'ensemble des papes. Maintenant, reprenez votre portable et regardons ensemble ce tableau que je vais vous commenter après vous avoir rappelé brièvement ce que fut la vie de Bacon. Francis Bacon est né en 1909 à Dublin, en Irlande, de parents anglais. Il s'est toujours senti anglais. Il est mort en 1992 à Madrid, à l'âge de 83 ans. C'est un immense peintre, réputé pour ses déformations violentes du visage et du corps humain, ainsi que pour l'acidité des couleurs de sa palette, essentiellement le rouge, l'orange, le jaune et le violet. Il exalte la chair et peint des mondes clos, étouffants, dont on ne peut s'évader. Je dois mentionner un événement important de l'histoire de notre peintre. À l'âge de 16 ans, son père le surprend en train de se regarder dans une glace, travesti en femme, portant les sous-vêtements de sa mère. Père et fils se disputent durement. La scène est brutale et Francis revendique son homosexualité. Il est alors chassé de la maison paternelle et l'adolescent commence sa vie à Londres, en dehors de la famille. Il prend des cours de dessin pour tromper sa solitude et survit en se prostituant avec des hommes de l'âge de son père. Après quelque temps, le jeune Bacon voyage à Paris où il se rend à diverses expositions, dont celle magique de Picasso, qui le décide à consacrer sa vie à la peinture. De retour à Londres, son amant de l'époque, un riche protecteur, l'installe dans un atelier à la campagne où il produit plusieurs toiles. Mais à l'âge de 35 ans, déçu par le résultat de son travail, il les détruit toutes, à l'exception d'un triptyque qui le rendra célèbre, intitulé « Trois études des figures au pied d'une crucifixion ». À présent, regardons ensemble tête 6. L'avez-vous sur votre écran? Nous y voyons un personnage pontifical, hurlant, enfermé dans un cube de verre, assis dans la même posture et portant la même cape et la même collerette blanche que le pape de Velázquez. Au premier coup d'œil, nous avons l'impression que la bouche béante est celle d'un être qui hurle sa douleur. Cependant, sachant que Bacon souffrait de crises d'asthme très pénibles depuis son enfance, j'ai eu une autre vision de ces tableaux. Pour me faire comprendre, je vous demande de concentrer votre regard sur le noir qui remplit le fond de la bouche. Et au lieu d'imaginer qu'un cri sort de la gorge, imaginez à l'inverse que le trou noir avale l'air confiné dans le caisson de verre. Je pense que Bacon a peint cette bouche aspirante sans savoir qu'il peignait sa propre bouche haletante d'asthmatique. C'est pourquoi je me dis que la bouche de ce pape n'est pas une bouche qui hurle, mais une bouche désespérée de trouver de l'air. Et si nous allons plus loin encore, nous pouvons imaginer que le peu d'air s'engouffre violemment dans la gorge, monte à la tête et fait exploser le crâne. Quelle déflagration! Si maintenant je compare la bouche asthmatique du pape de la tête 6 avec la bouche pincée d'Innocent X, je vois immédiatement que Bacon a transformé le pape crispé et intimidant de Velázquez en un pape affolé et terrifiant à la tête éclatée. Je viens de vous présenter Tête 6 parce qu'il était produit par Bacon en étant obsédé par le pape de Velázquez. Mais la question que je me suis posée en tant que psychanalyste et avec laquelle je voudrais conclure cet épisode est la suivante. Qu'est-ce qui, dans le portrait de ces papes, excite si fortement Bacon pour qu'il se mette à peindre compulsivement la série des papes? Dans un premier temps, je me suis dit que c'était la perfection du portrait de Velázquez qui fascinait Bacon. Maintenant, sans exclure cette idée, je voudrais vous proposer une autre explication née de mon empathie avec l'inconscient de notre peintre. J'ai appris que Bacon adorait les quartiers des viandes fraîchement découpées et surtout la couleur rose saumonée de la chair vive. Bacon disait « J'ai toujours été très touché par les images des abattoirs et de la viande. Pour moi, la couleur de la viande est d'une grande beauté. » Nous savons que Francis Bacon n'est pas le seul peintre à avoir introduit la viande dans ses tableaux. Je pense à Chaim Soutin, à Rembrandt ou à Chardin, qui tous se sont complus à peindre la chair fraîche et le sang. Mais Bacon n'a pas la même approche de la viande que ses peintres. Quand il peint la chair, Bacon se peint lui-même. Peindre un quartier des viandes est pour lui exécuter son autoportrait. « Nous sommes de la viande, disait-il. Nous sommes des carcasses en puissance. » Et il ajoutait, « Quand j'entre dans une boucherie, je trouve toujours surprenant de ne pas être là, dépouillé, suspendu au crochet à la place de l'animal. » Décidément, Bacon a le culte de la chair au point de se voir et de voir ses personnages écorché vif. Il perçoit les autres tels qu'il se ressent lui-même, pure viande, pure chair vivante, avec l'intérieur du corps retourné comme un gant, les muqueuses tout au dehors. C'est ainsi que je suis entré en empathie avec Bacon et me suis pris à imaginer que devant le portrait d'Innocent X, notre peintre avait halluciné la présence de la chair vive dans le personnage du pape. Je viens de vous dire que je suis entré en empathie, mais qu'est-ce que cela signifie? En fait, j'ai procédé de la même manière qu'avec mes analysants. Après m'être informé sur la vie de mon patient, j'imagine l'émotion qu'il doit ressentir dans un moment douloureux, puis j'essaye de la ressentir moi-même. C'est ainsi que je vis ce qu'il vit. Avec Bacon, j'ai suivi la même démarche empathique. Je me suis informé de tous les détails de sa vie intime, grâce surtout aux nombreuses interviews où il se livre sans retenue, et j'ai pu admirer tous ses tableaux. Connaissant sa vie et son œuvre, je plonge alors à l'intérieur de notre artiste et j'essaye de voir ce que voient ses yeux de peintre et même de sentir ce que sent son corps d'homosexuel. Comme si j'étais lui, devant les portraits du pape, je me concentre et vibre comme je suppose que Bacon a vibré chaque fois qu'il regardait ce tableau. Que vois-je alors? Eh bien, moi, Francis Bacon, je suis happé par la cape papale en satin rouge et ses ondulations luisantes. Je devrais dire que la cape, plutôt que rouge, a la couleur rose saumonée de la viande crue. Bizarrement, mon œil halluciné d'artiste aperçoit sur les épaules du pape non pas une cape, mais un quartier de viande qu'il porterait sur son dos à la manière d'un boucher. Voilà ce que j'imaginais, moi, psychanalyste, en m'églissant dans la peau du peintre. Quand cette vision outrée s'est imposée à moi, je me suis dit qu'elle était absurde. Cependant, j'ai persévéré en me laissant aller à mon intuition de psychanalyste, comme si je voulais percevoir ce que Bacon percevait inconsciemment quand il regardait le tableau de Velázquez. Du coup, mon identification à l'artiste et à l'homme homosexuel m'a entraîné à assimiler les luisants du satin de la cape à la viscosité d'une muqueuse lubrifiée. Oui, je me suis dit qu'en m'appropriant le regard de Bacon et qu'en éprouvant son excitation homosexuelle, je voyais non plus une cape ni même un quartier des viandes, mais le gland lubrifié d'un pénis son érection. Voici mon idée. Devant le portrait du pape, Bacon est hypnotisé et même excité par l'image de la chair humectée d'un sexe gonflé de désir. Peut-être s'agit-il de son propre pénis en érection, de celui d'un de ses amants, ou encore du pénis de son père. Oui, de son père, si nous pensons à ce qu'il déclarait à David Sylvester sur l'attirance sexuelle pour son père. Il lui confiait, c'est vrai, je n'aimais pas mon père. Je ne l'aimais pas, mais j'étais sexuellement attiré par lui quand j'étais jeune. La première fois que je me suis senti attiré, je savais à peine que c'était sexuel. Ce n'est que plus tard, quand j'ai eu des aventures avec les palefreniers plus âgés que moi, que j'ai réalisé que c'était quelque chose de sexuel que j'éprouvais pour mon père. Reprenons notre fil. Certes, j'assimilais la brillance de la cape rouge saumonée à la viscosité du gland d'un pénis turgescent, mais je devrais élargir mon interprétation et considérer que les plis luisants de la cape porté par le pape ou même la moiteur de son visage sanguin, peuvent aussi évoquer aux yeux de notre peintre une muqueuse humectée, qu'elle soit buccale, anale ou vaginale. Je suis convaincu qu'il suffit d'une image rose-orangée à l'aspect brillant pour que Bacon pense à la chair vive et s'empresse de la peindre. C'est cette chair fraîche, cette muqueuse lubrifiée qu'il aurait tant aimé reproduire sur sa toile. « J'aime, » confiait-il à son intervieweur, « j'aime le luisant et la couleur de la bouche. J'ai toujours espéré être capable de peindre la bouche comme Monet peignait un coucher de soleil. » Il me faut maintenant conclure. J'ai voulu vous montrer que Bacon non seulement avait été inspiré par le portrait du pape de Velázquez, il a été bouleversé jusqu'en devenir dépendant comme d'une drogue. La drogue pour Bacon n'était pas seulement la perfection de ses portraits devant lesquels il s'extasiait, non, sa drogue était aussi la sensualité de ses tableaux, qui l'excitait physiquement et lui donnait l'envie de peindre, de ne pas s'arrêter de peindre toujours. Un tout dernier mot, cher auditeur, pour vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai appris à connaître du dedans l'homme Bacon et à l'aimer. Oui, à l'aimer. Quand on connaît un être du dedans, on sympathise inévitablement avec lui, qu'il soit ange ou démon, parce que nous découvrons l'enfant innocent qu'il a été. Et en le découvrant, nous nous rendons compte que nous aussi, nous sommes cet enfant.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sous la manière dont un grand maître du XVIIe siècle a été l'aiguillon de la création d'un autre grand maître du XXe siècle. Maintenant, ne partez pas, je vais répondre aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode en podcast sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr. Mais avant, on écoute Clément Froissart. Rendez-vous sur France Inter.
Yeah.
Bien, venons-en aux questions. Maintenant, c'est à vous de parler.
Bonjour, docteur Nasio, Catherine. Je voudrais savoir si vous pouviez nous expliquer de quel complexe d'Œdipe a souffert Bacon. S'il a fait un complexe d'Œdipe inversé, comment a-t-il fait pour devenir ce qu'il est ? Merci beaucoup, docteur.
Merci à vous, Catherine, de cette question très intéressante. Je voudrais d'abord, pour les auditeurs qui ont oublié ce que c'est que le complexe d'Œdipe, le définir rapidement. Le complexe d'Œdipe, c'est une invention de Freud pour nommer une épreuve que traverse tout enfant de 4 ans. Quelle est cette épreuve ? D'un côté, l'enfant a un désir sensuel débordant pour les parents du sexe opposé. Par exemple, le petit garçon a envie de caresser les seins de sa maman, ou bien la petite fille veut jouer à califourchant en se frottant les sexes sur les genoux du père. D'un côté, il y a donc le désir sensuel, et de l'autre, l'enfant est troublé parce qu'il sait que son geste est un geste érotique, innocemment érotique, bien sûr, mais que ce geste est un geste interdit. Voilà l'épreuve de tout enfant à 4 ans. Cette tension que Freud a nommée complexe d'Œdipe. Voilà ce qu'on entend par complexe d'Œdipe normal. Or, comme vous l'avez mentionné, il existe le complexe d'Œdipe inversé. Qu'est-ce que ça veut dire inversé ? Eh bien, c'est le complexe d'Œdipe qui désigne le cas où un petit garçon est érotiquement attiré, rappelez-vous, innocemment érotiquement attiré, non pas par sa maman, mais par son papa. Eh bien, vous me demandez si Bacon, qui a déclaré avoir eu un désir sexuel pour son père, si Bacon avait vécu un Œdipe inversé, c'est-à-dire une attirance érotique pour son père. Je répondrai que oui, que Bacon avait été attiré érotiquement par son père et même, si vous me permettez ajouter, par les hommes qui travaillaient pour le père dans les écuries. Certainement, et ça c'est important de le dire, le milieu viril du père, c'est un milieu où il y a le père qui s'occupait des chevaux, les palefreniers et les chevaux eux-mêmes. Eh bien, je pense, c'est mon interprétation, que ce milieu éminemment viril a énormément influencé dans l'orientation homosexuelle de Bacon.
Bonjour, je m'appelle Fanny. J'ai une question concernant l'émission avec le docteur Nasio. J'ai l'impression, dans l'analyse du docteur, l'orientation sexuelle de Bacon joue un rôle très important dans sa vision du tableau, mais je ne comprends pas comment il peut en fait présumer l'excitation sexuelle de quelqu'un, surtout d'après son orientation sexuelle. Merci pour votre réponse. Bonne journée.
Merci Fanny de votre question qui est très importante et je vous remercie de me la poser parce que ça me permet d'éclairer les auditeurs qui peuvent soulever le même problème que vous. Je dois vous dire que lorsque je me suis identifié à Bacon, homme homosexuel, et que je ressentis l'excitation sexuelle qu'il pouvait ressentir devant le tableau de Velázquez, était ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas une vérité. C'est mon imagination. Mais une imagination, Fanny, d'après tout ce que j'ai appris, tout ce que m'ont appris depuis très longtemps déjà, les nombreux patients homosexuels que j'ai écoutés. Vous savez, le premier patient que j'ai eu dans mon cabinet privé, c'était un patient homosexuel, c'était un homme d'une vingtaine d'années, et c'était en 1965. Vous imaginez, janvier 1965. Ça veut dire que depuis 1965, j'écoute des centaines de patients homosexuels, hommes. L'univers de l'homosexualité féminine, c'est complètement différent. Mais dans le cas des homosexuels masculins, sont eux qui m'ont appris ce que peut vivre l'excitation d'un homme homosexuel. Cela étant, ça reste mon imagination, mon interprétation. Peut-être un autre psychanalyste ou un autre commentariste n'aurait pas cette impression.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec le docteur Nasio.
Continuons avec vos questions.
Oui, bonjour, je suis Nadia de Montauban et je vous appelle donc au sujet de votre émission sur le peintre Velázquez et Bacon. Votre interprétation par rapport au rouge du pape Innocent X, bon, je peux la comprendre, mais moi je vois dans la représentation de Bacon, j'ai l'impression que c'est plutôt le personnage de son père qu'il a dessiné. Je vois plutôt un monsieur très âgé qui lui crie dessus quand il le met dehors, qu'il refuse son homosexualité. Et puis cette couleur violette plutôt que rouge, peut-être pour énoncer plus d'autorité, d'agressivité. Voilà, donc moi je ressens ça en voyant ce tableau. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur votre interprétation. Voilà.
Nadia, c'est tout à fait intéressant, votre interprétation. Vous savez, l'interprétation d'un tableau, c'est ouvert. Le tableau est un appel à l'interprétation. Donc, c'est tout à fait intéressant, l'interprétation que vous faites. Je dois dire que vous êtes un peu dans la ligne de nombreux critiques d'art qui ont considéré que la tête du pape de Velázquez comme la tête du pape de Bacon étaient deux expressions de la tête du père de Bacon. La tête du pape de Velázquez serait la tête d'un père sévère qui intimide, tandis que la tête du pape de Bacon serait la tête d'un père qui hurle sa colère, comme vous l'avez remarqué, horrifié qu'il est par l'homosexualité de son fils. Donc, j'ai eu cette interprétation. Mais, comme je vous dis, un tableau, c'est un appel à la parole du spectateur.
Bonjour. Donc, la sublimation. Me vient une question à propos de la création. Est-ce que la sublimation serait toujours reliée à la sexualité? Selon Freud, ça paraît évident que c'est une pulsion, une force libidinale. Qu'en penserait Carl Jung, qui était moins axé sur la sexualité. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
Madeleine, merci de votre question. Je voudrais avant tout rappeler la définition de la sublimation, telle que je viens de la formuler tout à l'heure. La sublimation, vous savez, c'est un terme qui vient de la chimie. Et c'est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux. Freud s'est servi de ce concept chimique de sublimation pour décrire chez l'être humain le passage de l'état brut de nos forces sexuelles agressives à un état plus élaboré de ces forces, où elles sont utilisées à d'autres buts que la sexualité ou l'agressivité. Ça, c'est très important parce que, Madeleine, vous me demandez s'il y a autre chose que la sexualité. Eh bien, ces forces, à l'état brut, vont devenir un état plus élaboré pour accomplir des buts plus affectifs, comme par exemple la tendresse ou l'amitié, des buts sociaux comme le travail. Je voudrais être clair, ces forces, destinées à la sexualité et à l'agressivité, sont maintenant sublimées, destinés à des comportements sociaux plus nobles. Mais n'oublions pas que la sexualité n'est pas entièrement sublimée. des artistes comme Picasso ou comme Bacon ont eu une activité artistique extraordinaire, débordante, et en même temps, une vie sexuelle tout aussi débordante. Ça veut dire que la sexualité, il y a une part des sexualités qui est sublimée en création, va à être la force de la création, et il y a une part de la sexualité qui n'est pas sublimée et qui va se dévoiler, qui va se manifester en comportement sexuel, proprement dit.
Oui, David de Bordeaux, je tenais à remercier le docteur Nazio pour la qualité de ses émissions. J'avais une question, si vous aviez, docteur Nazio, une image, une allégorie à faire sur la psychanalyse, quelle serait-elle ? Voilà. Merci beaucoup.
Cher David, votre question est sympathique. Je n'avais jamais pensé à chercher une image allégorique de la psychanalyse. La seule image qui m'est venue à l'esprit en écoutant votre question, c'est pas tellement l'allégorie de la psychanalyse. Non, l'image qui m'est venue et que je vous demande, cher auditeur, de trouver sur votre smartphone un tableau de René Magritte, un tableau de 1948 intitulé « la mémoire 2 », où l'on voit la tête sculptée dans le marbre d'une jeune femme, les yeux fermés, le visage serein, qui présente une tache rouge, comme si du sang coulait sur sa paupière et sa joue droite. Cette image représente pour moi non pas la psychanalyse, comme vous me le demandiez, mais elle représente la souffrance muette que la psychanalyse doit juguler, cette tache rouge sur les visages est pour moi l'allégorie d'un ancien événement tragique que cette femme a souffert quand elle était enfant et qui reste gravé dans sa mémoire. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir le thème de la relation passionnée entre deux grands maîtres de la peinture. Je voudrais remercier Josepha Lebrun pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Franck Olivard qui récolte vos questions et Fabien Capel à la technique. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Gill qui vous parlera de l'inconscient, des rêves et d'un certain Steven Spielberg. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur notre page internet L'inconscient sur franceinter.fr et lui laisser vos messages par note vocale ou bien sur le répondeur du 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 18 juin pour vous poser une question. Quelle névrosée êtes-vous ? Phobique, obsessionnel ou hystérique ?